L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM, pré-élection municipale. Le problème pour une radio comme la nôtre est double. Le territoire de Radio Évasion est vaste, la moitié du Finistère, et nos moyens humains et techniques sont limités. S'ajoutent à ces données les règles du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au grain. Et si on interviewe un ou une candidate, il faut interviewer aussi ses éventuels opposants ou opposantes. Bref, on ne s'en sort plus. Pourtant, nous croyons à l'importance des élections sur Radio Évasion. Le droit de vote, c'est quand il disparaît qu'on en découvre la valeur. Et puis de toute façon, les élections municipales restent populaires auprès des Français. Le maire, en tout cas, plus de 6 Français sur 10 le désignaient comme leur élu préféré, selon un sondage au Doxa CGI au mois d'octobre, notamment dans les petites communes. Malgré le coronavirus, ils sont 62% à avoir l'intention d'aller voter dimanche. Pourtant, il est des maires qui ne se représentent pas, pour des raisons diverses et variées. L'un d'entre eux est notre invité. Sa commune est rurale, on peut le dire, lui-même était agriculteur. Mais ce bourg et ses hameaux ont aussi des caractéristiques périurbaines, avec des habitants qui travaillent à Quimper, ou à Châteaulin, ou à Douarnenez. Quéménévin fait partie du pays glazique, historiquement, mais depuis 2017, elle s'est rattachée à Quimper, Bretagne occidentale. Bonjour Alain Lequellec.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, pas trop longtemps, votre parcours d'élu? Comment est-ce que vous êtes devenu élu?
Alors, ça fait 25 ans, ça fait 25 ans que je suis élu, 4 fois 6 plus années, plus une année, parce qu'on a eu un mandat de 7 ans. Donc, j'étais agriculteur à Quéménévin et j'ai toujours eu cette passion de la politique et j'ai toujours eu cette envie de m'investir effectivement dans la vie publique. Donc, c'était en même temps, alors on n'ose plus trop dire en même temps par les temps qui courent, mais en même temps, si je suis désolé, parce que moi c'est une expression que j'utilise beaucoup.
Vous n'êtes pas le seul, je crois.
En même temps, j'avais envie d'être agriculteur et envie d'être maire. Donc je me suis présenté la première fois en 95.
Déjà directement comme tête
oui,
de liste.
Directement en tête de liste. Et là, j'ai été battu de 2 voix.
Oula, et oui, ouais, ça s'est serré.
Donc j'ai fait un premier mandat donc, dans l'opposition. Ça s'est très bien passé avec le maire de l'époque.
Ça vous a permis d'apprendre en même temps?
Ça m'a permis d'apprendre, exactement. Mmh. Ça m'a permis d'apprendre. Et ensuite, donc, le mandat suivant, je me suis retrouvé adjoint donc, de ce maire-là. Voilà. Et donc ensuite, le troisième mandat. Donc là, j'ai été élu maire. Donc 2 mandats de maire. Voilà un petit peu mon parcours.
Et puis un petit peu conseiller régional aussi, depuis
alors,
quand
conseiller régional, donc j'ai été élu conseiller régional la dernière élection du conseil régional, donc c'était en décembre 2015. Donc effectivement, j'ai été élu dans la majorité régionale.
Parce qu'un mandat, on appelle un autre, c'est ça? Quand on a mis le bras dedans, en général, c'est tout le reste du corps qui
est
happé.
C'était pas prévu. Alors oui et non, parce qu'effectivement, la vie politique, c'est aussi ce sont un peu des montagnes russes, parce que c'était pas du tout mon projet. Mon projet, effectivement, c'était de me présenter à l'élection départementale. Mais si vous vous rappelez bien, on a regroupé 2 cantons entre eux. Et il fallait effectivement dans un canton un homme pour la parité et dans l'autre canton une femme. Donc, à cause des femmes, je n'ai pas pu me présenter.
Bigre.
Ah voilà, il faut dire ça le lendemain de la journée de la
journée
femme.
La journée internationale, voilà.
Ah, mais j'assume toujours ce que je dis. Donc voilà, et un certain nombre de circonstances ont fait que je me suis retrouvé, évidemment je ne vais pas dire je me suis retrouvé, parce que c'était une volonté de ma part aussi, sur la liste régionale, et c'est vrai que c'est un formidable mandat. Alors, c'est vrai que vous êtes repéré dans une élection régionale parce que vous êtes maire. Et parce que vous êtes maire, dans mon cas, parce que j'étais aussi agriculteur, parce que je suis aussi de gauche. Donc voilà, c'est un certain nombre de faits. La mairie est évidemment un élément supplémentaire qui vous fait repérer et qui vous fait participer à une autre élection. Oui, dans ce sens-là, un mandat en appelle un autre, effectivement. Oui, oui.
Et les différences entre les 2 mandats, c'était quoi le plus frappant? C'est vrai que ça vient comme
c'est
ça.
Pas la même façon, c'est pas la même façon de faire de la politique. C'est-à-dire que quand vous êtes maire, surtout maire d'une petite commune, vous êtes les mains dans le cambouis. Quand vous êtes conseiller régional, vous participez plus à l'élaboration d'une politique générale. Vous voyez la politique, mais les deux sont passionnants. Parce que quand vous êtes les mains dans le cambouis, vous avez parfois du mal à prendre du recul pour bien poser les enjeux et bien garder une ligne directrice. Et quand vous êtes à la région, vous avez parfois du mal à être en prise directe avec le concret des...
Donc c'est cohérent de garder les deux mandats, finalement.
Moi, j'ai toujours milité pour un seul mandat. Mais bon, j'assume aussi. Moi, j'ai eu une carrière d'agriculteur. Donc, je pense pas qu'on peut considérer que j'ai fait de ma vie politique le centre de ma vie.
Vous n'étiez pas un professionnel de la politique, c'est ça ?
Je pense pas que je sois ressenti comme ça. Mais donc, j'ai toujours milité pour un seul mandat. Mais en même temps, effectivement, c'est vrai que ce sont deux mandats. Qui sont vraiment complémentaires, oui. Oui.
Et comment est-ce que vous avez pu concilier vos mandats justement avec votre métier qui est pas les moins prenants, enfin agriculteur, c'est pareil. Vous étiez éleveur laitier, c'est ça?
Éleveur
laitier,
oui. Ouais,
en plus.
Alors, parce que j'ai toujours travaillé aussi sur l'idée de l'organisation d'une exploitation agricole. Et j'ai pu concilier ça parce que je me suis associé, j'ai eu un associé, donc j'ai été 20 ans associé avec un ami, et j'ai fait aussi le choix, en production laitière, d'avoir un robot de traite, très tôt. Et donc, ce qui permettait d'organiser mon temps de travail comme je l'entendais. Je disais toujours en plaisantant que quand j'en avais marre de mes vaches, j'allais à la mairie. Quand j'en avais marre de la mairie, je retournais m'occuper de mes enfants. Et quand j'en avais marre de mes enfants, j'allais revoir mes vaches. Donc, c'était un équilibre aussi. Et justement, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui sont en souffrance parce que je dirais qu'ils sont trop enfermés, mais c'est pas leur faute. Mais ils sont trop enfermés dans leur monde agricole avec les difficultés qu'on connaît. Et moi, j'ai toujours trouvé essentiel d'avoir cette diversité de. Mais ça suppose effectivement une organisation très rigoureuse du travail.
Et puis vous aviez la chance d'avoir une famille, ce qui n'est pas toujours le cas pour les agriculteurs. Comment est-ce qu'elle partageait vos convictions d'élu, pas vos convictions, mais votre quotidien d'élu, votre famille, comment ça se passait Est-ce que vous leur avez demandé déjà au départ leur avis?
Non, je ne leur ai pas demandé leur avis. C'était une évidence pour moi de le faire. Donc ça faisait partie du contrat. Je pense que ça n'a jamais posé... poser problème, non.
Et ça s'est bien passé après, quoi. Enfin, l'organisation familiale...
J'ai eu une vie familiale comme toutes les vies familiales aujourd'hui, un peu compliquée, mais je pense pas que c'est mon travail de mère qui a perturbé ça, parce que j'ai toujours été un obsédé de l'organisation. Je savais combien de temps il me fallait pour m'occuper de mes vaches. Ça me permettrait, voilà, ensuite de... 3 minutes pour prendre sa douche, d'être à la mairie 5 minutes après. Voilà, j'ai toujours été un obsédé de l'organisation, donc ça m'a jamais posé problème, pardon.
Et alors, cette fonction de maire, qu'est-ce qui vous a le plus étonné au départ? Puisque vous étiez pas tout de suite maire, puisque vous avez pu avoir un avant-goût, mais...
Comme c'était une volonté. Au départ, parce que même avant d'être maire, j'allais aux conseils municipaux en tant qu'auditeur. Ensuite, j'ai eu un mandat adjoint, donc je ne vais pas dire que quelque chose m'a étonné. Je suis rentré, je dirais, très progressivement, et dossier après dossier, je n'ai pas été étonné par les choses, parce que je suis rentré. Je comprends qu'un maire qui débarque, qui va se présenter aujourd'hui, qui va se retrouver devant des dossiers, devant la complexité... qui est encore évidemment bien supérieure aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 25 ans, je comprends qu'il y ait une surprise. Moi, je n'ai pas eu cette surprise. Je suis rentré tranquillement, rien ne m'a surpris, c'était ce auquel je m'attendais, mais parce que j'y étais aussi préparé.
Mais même une fois maire, par exemple, sur les demandes des administrés, parce que quand on est adjoint ou élu dans l'opposition, on n'a pas forcément affaire à toutes les demandes auxquelles est confronté un maire, en fait.
Alors oui, quand on devient maire, on se rend compte effectivement qu'il y a un degré supplémentaire parce qu'on est le dernier recours. Et c'est vrai que quand on est adjoint, on sait qu'on a le maire derrière. C'est très clair. Et quand on est maire, c'est vers vous que se retournent tous les élus, tous les agents, pour vous dire, là on fait quoi ? C'est-à-dire, quand vous arrivez en mairie le matin, il va falloir trancher sur 3 ou 4 mini-questions, une question un peu plus importante, et puis réfléchir à une grosse question qu'on sait qui va arriver. Quoi. Et donc, il faut être capable de prendre à la fois ces décisions, tout en faisant évidemment participer tout le monde.
Oui, c'est un peu la question que j'avais posée, parce que ça dépend des maires, mais il y en a qui sont très, très autocrates, enfin, qui prennent toutes les décisions, puis d'autres moins. Vous étiez quel genre de maire, vous ?
C'est peut-être une autocritique, peut-être que j'ai pris trop de décisions seul. Alors, mais en même temps, je pense que j'ai toujours tenu aussi à animer mon équipe municipale. Alors j'avais une façon de faire qui était peut-être un peu particulière, c'est-à-dire je partais du principe que tout pouvait être dit en conseil municipal. Et donc je faisais des conseils municipaux assez réguliers, un par mois, et donc je considérais que tout pouvait être dit en conseil municipal.
C'était pas en commission que les choses
non,
se disaient.
Voilà. D'accord. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, parce que quand vous faites des commissions,
On fait la tambouille, quoi, voilà, interne. Voilà. Et puis après, du coup, en conseil municipal, on fait qu'entériner, quoi.
Voilà, exactement. Mmh. Donc j'ai toujours pris. Alors, mais ça suppose aussi d'avoir des convictions très, très affirmées et de pouvoir avoir cette ligne directrice des convictions pour mener des débats.
Des arguments aussi.
Des arguments, voilà. Mmh. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'arriver en conseil municipal et que ça parte dans tous les sens, parce que c'est pas non plus, démocratiquement, c'est pas la meilleure solution. Donc voilà, je sais peut-être que je suis perçu comme un maire très affirmatif. C'est une des raisons pour laquelle aussi, j'ai pas voulu participer, même en dernière position, à une liste
à une
que je
liste,
soutenais.
Ouais.
Parce que je me connais très bien. Si je suis là, je vais vouloir encore prendre toute la place. Donc, il vaut mieux que je laisse mon successeur libre.
Mais, ça se passait bien dans votre équipe, enfin, ce fonctionnement-là.
J'ai jamais eu de problème dans mon équipe. Je pense que j'espère avoir réussi toujours à faire vivre cette démocratie. J'ai jamais eu de problème. Non, j'ai jamais eu de conflit ouvert en 12 ans de maire. J'ai jamais eu de conflit ouvert avec mon équipe. Non.
Comment est-ce que vous vous formiez? Est-ce que c'était uniquement sur le tas ou est-ce qu'il y avait des...
Alors moi, effectivement, encore une fois, je suis rentré progressivement dans les dossiers. Donc moi, c'est vrai que j'ai jamais... alors là aussi, peut-être par manque de temps, j'ai jamais pris le temps de faire des formations formelles. Mais je suis quelqu'un qui lit aussi beaucoup, donc je considérais que, bon, quand on lisait bien un dossier, quand on lisait bien des documents à côté, voilà, je me suis formé comme ça, je dirais oui, sur le tas. J'ai pas fait l'effort. Par contre, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il vaut mieux se former très formellement, et les organismes de formation sont là pour ça et sont bien faits pour le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas pris cette voie-là, oui. Oui.
Et quelle que soit la taille de la commune? Il y a combien d'habitants à Quéménévin?
1150. Après, dans une grande commune, vous avez tous les services supports, notamment des services juridiques, qui vont vous apporter aussi des réponses aux questions que vous vous posez. Ce n'est pas du tout la même façon quand vous avez un service juridique en conseil que quand vous êtes un maire relativement esselé face à une interrogation juridique, administrative, fiscale. Quand vous avez effectivement des services derrière, c'est très différent.
Et comment s'est fait le choix d'ailleurs de la communauté de communes de rattachement pour Quéménévin, qui est un petit peu au milieu de, comme je disais, des bassins Châtelain, Douarnenez, Quimper? Ça a dû être un petit peu déchirant, non?
Alors, déchirant, non, parce que pour moi, c'était une évidence. Quand je participais à la communauté de communes de Châtelain et du Porzay, et je crois que j'y ai participé de manière très engagée, parce que j'ai été responsable du SCOT de Châtelain, j'ai été responsable du plan local de l'urbanisme de Châtelain, Châtelain-Porzay, donc je me suis engagé à le faire. Et mon constat était que Quéménévin était un peu en dehors des logiques de Quéménévin. Tout simplement parce que sur 10 salariés de Quéménévin, il y en a 9 qui travaillaient, disons, vers le sud, vers Quimper, Briègue, Locronan, et un qui travaillait sur Châtelain. Donc quand vous êtes comme ça avec des populations qui, pour le travail, pour le commerce, pour le loisir, sont attirés vers Quimper, vous concluez que votre commune, elle est attirée vers Quimper.
Et il y avait quand même cette évidence d'attraction vers Quimper.
C'était une évidence.
Ah oui.
Et l'évidence prospective pour moi, c'était de me dire que j'étais aussi, quand vous êtes responsable du SCOT, vous êtes responsable, par exemple, de la politique de transport. Je ne pouvais pas imaginer une politique de transport de Quéménévin vers Châtelain, ça n'avait aucun sens. Ça aurait pu toucher une personne, deux personnes. On l'a fait d'ailleurs. On avait mis en place un car qui venait au marché à Châtelain. Mais si on veut imaginer une politique de transport à Quéménévin, c'est évidemment dans l'orbite de Quimper qu'il faut l'organiser. Et donc maintenant, effectivement, nous participons à la CUB. Nous sommes rentrés dans... Et le car, effectivement, est arrivé à Kemnevin. Et petit à petit, dans 10 ans, ça ne posera même plus de questions. Ça, on sera intégré, on l'est déjà, mais on sera de plus en plus intégré. Et d'ailleurs, le débat, il y a eu une unanimité du conseil municipal de Kemnevin. Donc, il y a eu un débat parce que il y a un peu d'inquiétude, notamment en matière fiscale, est-ce qu'on ne va pas payer plus ? Mais réellement, sur le fond, il n'y a pas eu de débat à Kemnevin. C'est apparu comme une évidence. Et dans la campagne électorale de Kemnevin, je ne pense pas qu'il y ait de débat aujourd'hui sur ce sujet-là.
En termes d'évolution, alors je ne sais pas si c'est plutôt en termes d'évolution du type d'électeur, enfin du comportement des électeurs ou de la fonction, qu'est-ce qui vous paraît le plus flagrant parce que là, vous avez quand même un bon recul. Bon, il y a eu la loi NOTRe, en effet, de réorganisation du territoire, mais qu'est-ce qui a le plus changé, vous diriez, dans la fonction de maire depuis 20 ans, quoi, mettons ?
C'est certain que ce qui a le plus changé depuis 20 ans, c'est cette participation aux communautés de communes. Ça, c'est une évidence. Et c'est même une de mes inquiétudes sur la campagne électorale en cours, c'est que les personnes sont en train de faire des campagnes électorales communales alors que 95% des enjeux sont intercommunales, se passent au niveau de la communauté.
Ah oui, c'est vraiment le cas. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des débats qui dépassent la commune ?
Il y a des débats qui dépassent la commune, mais c'est très compliqué. Complexe de les poser dans un cadre communal. Parce que il y a des moments, des contradictions. Donc moi, je comprends les candidats dans les mairies qui ont du mal à porter des débats communautaires. C'est très complexe. Parce que ça peut, un débat communautaire, un enjeu communautaire peut être contradictoire avec un enjeu communal. Donc il faut oser poser ces débats. Donc c'est vraiment très compliqué. Et moi, c'est mon inquiétude principale. C'est que je vois des débats aujourd'hui de campagne municipale qui sont en décalage complet, mais vraiment complet, avec des enjeux communautaires.
Et qu'est-ce qu'il faudrait alors selon vous ? Il faudrait qu'on passe à l'échelon intercommunal directement, qu'on passe à un vote pour les conseillers communautaires, c'est ça ?
Oui. Ouais. Pour moi, mon constat au bout de ces 25 ans, mon constat premier, c'est l'inégalité territoriale. Ça, c'est mon constat premier. Aujourd'hui, vous avez des communes qui ont parfaitement les moyens de continuer. Et vous avez des communes qui n'ont aucun moyen. Je ne vais pas expliquer pourquoi, c'est très complexe, mais c'est une situation réelle. Vous avez des communes qui n'ont aucun problème d'argent. Et vous avez la commune voisine qui n'a pas d'argent. C'est ni la faute du maire, les maires, ils héritent d'une situation, ni la faute de la commune, mais c'est une situation réelle. Moi, j'aurais préféré que les communes continuent. Parce que c'est un très bon échelon local, c'est un très bon niveau pour faire participer les citoyens.
En termes de proximité.
En termes de proximité. Sauf que, aujourd'hui, le problème, l'impossibilité de réformer, notamment la réforme, l'impossibilité de la réforme fiscale, le refus des élus nationaux de s'engager dans une réforme fiscale.
Une vraie réforme fiscale,
vous voulez dire. Une vraie réforme fiscale. Alors, je ne parle pas en vue des contradictions de la réforme fiscale par rapport à la transition énergétique. Bon, à un moment donné, on va se heurter à ce mur de la réforme fiscale. Ça, l'impossibilité des élus nationaux de s'engager dans une vraie réforme fiscale et le problème de la gouvernance, justement, des communautés. Parce qu'en fait, un maire dans une communauté, il est élu en tant que maire. Donc, et c'est logique, dans la communauté, il va relayer ses intérêts de maire.
Ouais, c'est ça, il va défendre sa commune, quoi.
Il va défendre sa commune.
Logique.
C'est exactement la même chose qui se passe au niveau de l'Europe. Dans les conseils européens, les dirigeants européens sont là en tant que président de leur pays. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive pas à avoir une vraie politique, ni communautaire, ni européenne, parce qu'on a un problème de gouvernance qui, aujourd'hui, stérilise absolument tout. Et donc, on a ces deux problèmes, de l'impossibilité de la réforme fiscale et de la gouvernance, qui fait que tous les sujets sont réellement aujourd'hui bloqués. Et c'est mon inquiétude par rapport aux maires qui vont arriver, c'est comment arriver à déverrouiller ce système.
Et les électeurs, eux, est-ce qu'ils ont changé et comment s'ils ont changé ?
Ah, je ne sais pas. Je ne crois pas que je saurais répondre à cette question. Je ne sais pas. Les électeurs, ils font... Non, franchement, je ne sais pas. Il y a une traduction d'un certain mal-être, d'une certaine souffrance, qui peut se traduire par des votes extrêmes. Mais est-ce que c'est plus qu'avant, oui, c'est sûrement plus qu'avant, cette traduction, je dirais, d'un certain mal-être qui n'arrive pas, justement, à avoir un débouché démocratique, parce que, justement, ce que je viens de vous dire, ça, c'est vrai. On est dans une, je dirais, je ne sais pas si c'est une crise démocratique, mais tout le monde admet quand même que nous sommes dans une dégradation de la démocratie. Nous sommes certainement pas en dictature. Hein. Ceux qui prétendent ça et ceux qui le disent, c'est complètement fou. Mais on ne va pas dire non plus qu'on a une démocratie qui fonctionne bien. On a quand même une dégradation de la démocratie, justement parce que j'évoquais tout à l'heure, parce que les citoyens ont le sentiment que les élus n'arrivent pas à mettre en œuvre des politiques qu'ils souhaiteraient. Et c'est aussi le problème de la transition écologique. C'est-à-dire, nous savons tous qu'il va falloir changer de manière de faire de la politique, et concrètement, nous n'y arrivons pas. Alors, j'ai deux ou trois idées là-dessus, et j'espère que là où je serai maintenant non élu, j'arriverai à... Ça va peut-être être compliqué, mais j'espère arriver à ça, à faire passer ces idées-là. Et donc, le citoyen a le sentiment que le politique n'arrive pas en fait, là aussi, à transformer l'essai. Et donc, il y a un vote extrême qui traduit ce mal-être.
Mais pour autant, vos électeurs à vous n'étaient pas... Enfin, vos administrés, on va dire, plutôt, n'étaient pas... Enfin, étaient plutôt sympas avec vous. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas eu de problème spécifique.
J'ai pas eu de problème. Quand j'ai dit que je ne me représentais pas, voilà, j'ai eu quelques soutiens en me disant, voilà, c'est... Enfin, je ne parle plus... j'ai pas habitué à me passer la pommade, mais voilà, j'ai eu des soutiens en disant, bah, c'est dommage, voilà, donc...
Fait toujours plaisir.
Oui, bien sûr, oui. Ah bah oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Oui.
Quel serait votre souvenir le plus marquant en tant que maire? Pas forcément. Enfin, bon ou mauvais, ou une période peut-être qui vous a particulièrement marqué.
Le meilleur souvenir, c'est un souvenir très personnel. Le fait de pouvoir marier ses enfants, c'est quand même un bonheur, c'est quand même un plaisir, un bonheur. Donc c'est très personnel, mais voilà, ça reste. Après, je pense qu'un maire doit trouver des satisfactions, je dirais, dans son fonctionnement quotidien. Je pensais à ça en venant, je me disais, peut-être le moment le plus... Alors c'est très... Ça paraît rien du tout, mais quand on a une cantine municipale. Donc on fait les repas, c'est du personnel municipal qui fait les repas. Et c'est deux cantinières. Et une des cantinières devait partir en retraite. Donc quand un personnel communal part en retraite, quand vous avez 8-9 personnes comme personnel communal, vous vous dites, est-ce que je le remplace? Parce que embaucher aujourd'hui un fonctionnaire, ça a des conséquences, c'est pas neutre. Et donc on se dit, voilà, est-ce qu'on continue à faire les repas dans la cantine ou est-ce qu'on fait du portage de repas? En clair. Et là, quand vous avez tous les parents qui viennent vous dire, bah non, 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 surtout on continue comme ça. Ça veut dire ce que vous faites, alors que souvent ce que vous entendez quand vous êtes maire, c'est les critiques. Mais ce que vous faites est apprécié et que vous avez les citoyens qui viennent vous dire, ah ben non, surtout on continue comme ça. Mais c'est ça, je crois qu'il faut trouver de la satisfaction dans ce fonctionnement quotidien. Et je crois que c'est là que ça m'a fait le plus plaisir parce que on comprend que ce qu'on fait, ben, n'est pas si mal que ça finalement, quoi.
Vous avez un conseil pour les nouvelles futures maires?
Ah non.
Vous ne visitez pas beaucoup.
Non, parce que je...
Ça ou un conseil personnel, de rester zen.
Ah, de rester zen, certainement. De rester zen, certainement. De faire au mieux son travail, d'avoir cette vision, d'avoir une vision politique. Parce que moi, je crois fondamentalement, je suis un homme politique. Donc, je crois qu'on ne peut pas faire ce métier sans une colonne vertébrale, je dirais, politique. La mienne, ça a été une colonne vertébrale politique de gauche, donc avec un certain nombre d'inquiétudes, de valeurs, voilà. Et quand je parle des inégalités territoriales, c'est... Bon,
ah oui, donc pour vous, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de maires qui se disent sans étiquette, alors on se dit, tiens, oui. C'est plus important maintenant
d'avoir... À la fois, dans les actions, on dit toujours dans une petite commune, les actions ne sont pas politiques, mais le fait de garder une cantine municipale, le fait de vouloir garder, de faire ses repas localement, mais alors ça devient aujourd'hui, si ça ne l'était pas hier, ça devient vraiment un enjeu politique. Et là, effectivement, quand vous avez une colonne vertébrale très claire, bah vous ne vous posez même pas la question. Vous essayez de le faire, et encore une fois, c'est compliqué, parce que bah, vous avez forcément des coûts plus important. Donc, il faut ensuite assumer sa colonne vertébrale et faire en sorte que... Alors, évidemment, vous avez moins d'enjeux, je dirais, vous avez pas forcément moins d'enjeux politiques dans une petite commune que dans une grande commune, mais vous avez moins de marqueurs pour l'afficher. Mais moi, j'ai toujours affiché, effectivement, mes choix, et ça n'a jamais posé problème. Moi, j'ai travaillé... Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire dans une petite commune, c'est une liste politique. Moi, j'avais des gens avec moi que je savais très bien qui n'étaient pas de mon bord politique, avec qui je me suis formidablement bien entendu, parce qu'on avait cette conscience de l'intérêt public. Voilà. Mais ça, c'est très complexe de faire une liste politique. Mais moi, j'ai toujours revendiqué mon positionnement politique sans obliger mes colistiers à avoir la même, évidemment. Parce que sinon, c'est très compliqué. Ouais.
Très bien. Bah, on arrive au terme de l'émission. Juste un tout petit mot pour dire ce que vous allez faire maintenant. Alors,
Ah ben, je vais me reposer. Non. Les gens me disent toujours, mais tu vas t'ennuyer maintenant. Non. M'ennuyer, ça, je sais pas ce que c'est. Ben, il reste mon mandat régional. Voilà, je vais voir comment ça va se passer ces dernières années de mandat régional qui me passionne toujours. Et puis voilà, j'ai d'autres passions dans la vie. Puis j'ai l'âge de la retraite. Donc voilà. Et j'ai d'autres passions dans ma vie. J'ai toujours considéré qu'il fallait qu'il y ait du renouvellement. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait du renouvellement. C'est très important qu'on ne fasse pas de son mandat une rente. Ça, je suis persuadé. Donc non. J'ai mes livres. J'ai ma passion de l'écriture. Et ça va tout à fait m'occuper.
Vous reviendrez nous en parler alors. Bon, en attendant, n'oubliez pas, les élections municipales, c'est dimanche le premier tour. Et vous pouvez réécouter cet entretien sur le site internet de Radio Évasion. Merci.
Merci.
L'émission.